Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, un pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous, votre Montpellier, bonjour. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'union urbaine. Ça ne vous dit rien? On dirait le nom d'un parti politique qui prépare les prochaines élections municipales. Mais ce n'est pas du tout ça. Notre curiosité pour l'union urbaine confirme un défi conducteur de cette émission. Souvent, des acteurs de la ville, élus, responsables d'associations, chercheurs, militants, nous nous penchons sur l'urbanisme, les phénomènes urbains, la citoyenneté dans la cité. Union urbaine est un des aspects de cette vitalité de notre ville. C'est une association créée en 2016, à production multiple, à vocation culturelle et sociale, mais on voit ça dans le détail dans quelques minutes. Pour en savoir plus, j'ai invité un de ces deux piliers, Avercel Mba, son partenaire, Victor Van den Vandenberg. Je vous remercie d'être venu au micro de Divergence. Vous avez fait à Montpellier des études de journalisme et de sciences politiques avant un parcours dans la presse quotidienne régionale au Dauphiné Libéré. Aujourd'hui, vous vous présentez à la fois comme journaliste, documentariste et intervenant socioculturel, confirmation de la multiplicité des activités d'union urbaine que nous allons découvrir. Avant de nous parler d'union urbaine, racontez-nous votre Montpellier, à votre tour d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Victor Van den Vandenberg, quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement, auxquels vous êtes attaché et que vous recommandez à vos amis de passage?
Déjà, merci à Divergence pour l'invitation. Les lieux... Le premier lieu, je pense, que j'ai le plus occupé pendant maintenant, là, ça va faire bientôt 15 ans que je suis à Montpellier, c'est d'abord le stade du quartier Le Maçon, le stade de foot du quartier de Le Maçon, le stade Jean Braun. Et j'aime particulièrement cet endroit parce que j'ai passé beaucoup de temps. J'ai été licencié en fait dans le club de foot.
Tu étais footeux à l'époque.
Exactement, j'ai arrêté l'année dernière en club et j'ai fait 8 ans en fait, 8 saisons au RC Le Maçon, Racing Club Le Maçon. Et j'aime assez bien ce terrain parce que c'était un terrain qu'on va dire un peu coupe-gorge pour les équipes qui venaient jouer un peu sur ce terrain. Il fallait un peu s'engouffrer.
C'était un peu chaud.
Tranquille, toute proportion gardée, mais en tout cas, il fallait un peu s'engouffrer dans la cité avant d'y arriver. Donc, il y avait beaucoup de monde qui venait nous supporter. Je pense que l'équipe réussissait bien à renvoyer l'identité un peu de l'endroit, de ses habitants. C'était toujours très difficile.
Un quartier populaire qui était une des vitrines du quartier.
C'est ça, et c'était toujours très compliqué de venir jouer chez nous. Donc, j'en garde de très bons souvenirs. D'ailleurs, je salue tous les joueurs que j'ai pu croiser au Racing Club Le Maçon.
Et peut-être un deuxième lieu dans un autre style.
Alors dans un autre style, je pense que les souvenirs que j'ai, ça va être les soirées passées sur un peu toutes les places à Montpellier, que ce soit les marches de l'église Saint-Roch, la place Sainte-Anne, la place de la Canourgue aussi, avant qu'elle soit réaménagée avec l'arrivée du restaurant des Frères Pourcel.
Ouais, c'est un peu changé en effet là.
C'est un peu changé, mais à l'époque, je me souviens que c'était une fois que les lumières s'éteignaient et que la nuit tombait, c'était des lieux de rencontre avec une assez belle effervescence et émulation.
Nocturne pour le coup.
Nocturne, ouais, mais c'est là aussi que les premières bases de l'association Union Urbaine se sont créées. Parce que j'y reviendrai, mais c'est avant tout une histoire d'amitié. Et donc, on a pas mal arpenté ces places avec mes amis. Donc,
très bien. Voilà. Bon, on est déjà en chemin là, pour voir ce qu'est Union Urbaine. On va maintenant le regarder de plus près. Alors d'abord, question attendue. Union Urbaine, pourquoi cette dénomination?
Alors, Union Urbaine, c'est pas pour le côté apparenté à un parti politique.
Oui, bien sûr, je l'ai dit là, pour sourire.
Non, alors je dirais Union Urbaine, c'est un collectif, donc l'association, vous l'avez très bien dit, a été créée en 2016, et le collectif en 2015, donc on fête cette année nos 10 ans. Union Urbaine, d'abord Union, parce que, comme je le disais, c'est avant tout une histoire d'amitié, d'entraide. C'est une nébuleuse d'une quinzaine de personnes qui encore aujourd'hui gravitent autour du projet.
Voilà, de la même génération, j'imagine, pour la plupart.
La même génération, mais qui avait quand même des profils assez assez divers. À l'époque, c'était beaucoup. Donc, on était composés, que ce soit, ça pouvait très bien être des journalistes, comme des sans-emploi, comme des étudiants. Et donc peut-être ce qui nous rassemblait, c'est qu'on vient tous de milieux populaires, différents, mais qui ont la particularité d'être des milieux populaires. Et urbaine, du coup, j'y viens. C'est parce qu'on avait à cœur, en fait, de raconter un peu les cultures urbaines dans leur transversalité. Aujourd'hui, culture urbaine, c'est un mot qui peut être un peu galvaudé.
Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a de la musique,
énormément,
pas seulement, de la danse. Mais...
C'est exactement ça. Et nous, en fait, ça regroupait un peu toutes les thématiques. En fait, c'est parti un peu d'un constat où on écoutait ce qui se disait dans les espaces médiatiques un peu dominants sur les cultures urbaines en général. Et on trouvait que souvent ça correspondait pas à la réalité qu'on avait nous, des cultures urbaines. Et donc c'est de là qu'est née cette volonté de vouloir nous aussi inscrire un peu, participer à l'écriture d'un certain récit et rendre compte d'une certaine réalité qui n'était pas forcément
racontée. Celle qui apparaissait ou qui dominait en tout cas.
C'est ça, par rapport à celle qui dominait, ouais, voilà.
Alors j'ai envie d'appeler votre compère, votre associé, là, Hassan Buma, se présente comme, alors je cite, réalisateur documentariste pour Union Urbaine par un concours de circonstances plutôt hasardeux. On peut dire, mais quel était le hasard de cette rencontre entre lui et vous, qui a été un peu le creuset, là, ou le melting pot dans lequel Union Urbaine s'est créé, s'est développé.
Alors là, ouais, il y a deux rencontres hasardeuses. La première rencontre hasardeuse, c'est celle qui a eu lieu, comme vous le dites, entre lui et moi. C'était pas si hasardeux que ça, mais en fait, on était à la faculté, donc on a fait, après le bac, c'est là qu'on s'est rencontrés, à la faculté de Paul Valéry. On faisait la licence information communication. Mais sauf que en L1, il y a beaucoup de personnes, on se croisait pas forcément. Sauf qu'un dimanche matin, en fait, moi à l'époque, j'arrive de Carpentras, moi dans le Vaucluse, et j'avais réussi à trouver un club de foot ici parce que à l'époque je jouais encore pas mal au foot. Je jouais à Castelnau, en fait, au club de Castelnau, et lui jouait à Latte. Et donc en fait, un dimanche, il y a Castelnau-Latte, un gros derby pour les connaisseurs. Et il s'avère que je le vois faire ses montées de genoux. Lui, il était à Latte, moi j'étais à Castelnau, donc on se salue. Et voilà, donc on s'est affronté sur les terrains un dimanche matin, et donc de là, en fait, ensuite on s'est reconnus à la fac, on a commencé à
créer
exactement,
sur un terrain de foot,
exactement. Et ensuite, donc l'autre rencontre hasardeuse, c'était la rencontre avec le documentaire vidéo. On y reviendra peut-être ensuite, plus tard.
On en parlera, bien sûr.
Super.
Alors, j'y reviens, là, pour que les auditeurs comprennent bien ce que vous faites, mais en reprenant un peu quelles étaient les idées directrices, fondatrices, peut-être la raison d'être même, vous l'avez un peu évoqué, d'Union Urbaine au départ, et telle qu'ensuite, si j'ai bien compris, cet objectif, cette ligne s'est poursuivie là, depuis bientôt 10 ans. Quoi.
Exactement. Oui, donc à la base, comme je l'ai raconté, donc il y avait l'idée, en fait c'était dans les années, donc c'était en 2015, à l'époque où il y avait pas mal de médias qui se créaient sur Internet, c'était à l'époque de Yard, de Vice aussi, les débuts un peu de Brut, et en fait on s'est dit nous aussi pourquoi pas, en fait on avait tout ce qu'il fallait pour créer un site Internet et commencer, comme je disais, à s'intéresser, à raconter un peu les cultures urbaines et à s'intéresser en fait aux différentes interactions qu'il pouvait y avoir entre les structures et les initiatives qui forment une ville. Donc que ce soit les associations, que ce soit les institutions, que ce soit les collectifs, que ce soit les personnes. Et il s'avère aussi que Arsène Mbuma, donc mon associé, mon collègue, et d'abord mon ami, préparait aussi son mémoire sur ces questions-là.
Ah, d'accord.
Voilà, et donc ça venait un peu rejoindre, parce que lui, il était dans une dimension, en fait, de recherche-action. Donc il avait envie de faire sortir un peu son travail des carcans universitaires. Donc il s'est dit, vais publier les entretiens.
On sort de l'institution, en quelque sorte.
Hein. En quelque sorte, rendre visible.
On a un acquis, en tout cas une formation, un début d'expérience qu'on met à profit dans cette voie. Quoi. Alors lui, il le dit aussi, je vais le citer encore une fois, je vous avais dit qu'on pouvait vous inviter tous les deux, mais ce n'était pas possible. Là, il dit quelque part qu'il a une appétence particulière pour les marges et les stigmates. Bon, les stigmates peut-être de la ville, pour le coup, ou les marges de la société, ça aussi, c'est un point qui raconte l'identité de l'Union urbaine.
Oui, bien sûr. Oui. Donc, en fait, après ces entretiens, ces reportages, on a commencé à passer au format vidéo. Et donc, là est le concours de circonstances un peu hasardeux. C'était un peu par hasard. On n'est pas issu de formation audiovisuelle. Comme vous l'avez compris, on est plutôt issu des milieux universitaires et de recherche. Et en fait, on s'est mis du coup beaucoup à travailler sur des publics qui pouvaient être sujets à des préjugés, à des représentations dans les sphères médiatiques, les différentes sphères médiatiques. Des préjugés, on en a tous, hein, c'est pas un gros mot, j'ai moi-même mes représentations. Et donc c'est comme ça qu'on en est venu à travailler avec cette volonté, en fait, de travailler sur les représentations et de filmer une réalité qui est, au plus proche du quotidien vécu par les personnes confinées.
Non, on va voir à partir des principales situations, en tout cas celles les plus significatives. Oui, oui, j'avais prévu une question qui renvoyait à ça. C'est, vous avez choisi l'image, le film documentaire comme support, alors mode d'expression et aussi média pour montrer une réalité qui ne l'est pas toujours, mais, qui n'est pas toujours apparente. Quoi. C'est bien ça. Quoi.
Exactement.
Alors, votre première réalisation d'envergure, on en évoquera d'autres, s'appelle « Trajectoire » au pluriel. Elle se déroule à la maison d'arrêt de Nîmes. On parlera à plusieurs reprises du monde carcéral. Alors, quel était le projet, l'idée, comment ça a démarré, comment ça s'est organisé pour le coup, en développant la vue sur cet exemple, comment ont été assurées à la fois la production, la réalisation et la diffusion de cette vidéo.
Ok. Alors,
c'était une aventure qui n'était pas gagnée d'avance, j'imagine.
Non, et puis ça s'inscrit aussi dans un chemin qui prend ses origines quelques années encore. Donc ça, on l'a réalisé en 2023, ce documentaire. En fait, donc, comme vous le dites, c'est le premier documentaire d'envergure, un long format de 52 minutes. Et en fait, avant ça, donc, on avait réalisé un premier documentaire de 52 minutes sur le club de futsal du Petit Bar, du Montpellier Méditerranée Futsal, qui prend ses racines dans le quartier du Petit Bar.
Qui est bon, un club très important.
Très important,
pour le quartier, et maintenant. Pas pour le futsal, probablement, mais à coup sûr pour le quartier.
Et pour le
futsal.
J'ai
reçu son animateur.
Oui, j'avais vu. il s'avère que aussi, au niveau du futsal, en fait, c'est même là que nous, on avait commencé à s'intéresser, parce qu'ils avaient de très bons résultats sportifs. Et encore aujourd'hui, ils sont remontés maintenant en Division 1 et ils se stabilisent. Et donc Division 1 nationale. Et donc, comme vous le dites, on a remarqué tout aussi le côté social. C'est ça qui nous intéressait. Donc, on les avait suivis sur plusieurs mois pendant une saison. Et donc, ce documentaire, en fait, on a réussi à le diffuser à la maison d'arrêt de Nîmes. Donc, à partir de ce documentaire-là, parce qu'on s'est dit que nous, on diffuse beaucoup nos travaux un peu partout, dans le cadre d'ateliers.
Voilà. Et bon, en fait, les détenus ont eu l'occasion de voir cette vidéo. Et du coup, ça a déclenché un projet. Et
exactement. En fait, à Nîmes, on a commencé à s'inscrire dans une dynamique d'organisation d'ateliers culturels. On fait aussi intervenir des écrivains dans la réalisation d'activités culturelles, parce qu'il y a des activités culturelles en détention. Et en fait, à force de faire ça 2-3 ans, nous, on s'est questionné aussi sur notre rôle en tant qu'intervenant culturel au sein de la maison d'arrêt de Nîmes. Qu'est-ce qu'on vient faire et à quoi on servait? Et donc, on s'est dit, quoi de mieux de monter un projet de documentaire qui interroge la place de la culture en détention, à quoi elle sert dans le parcours de réinsertion, à quoi elle peut servir pour les détenus, aussi pour les intervenants, aussi pour l'administration. Et donc, de là est né ce projet en collaboration avec la maison d'arrêt de Nîmes. Et c'est comme ça qu'on a réalisé Trajectoire, ouais.
D'accord.
Dont l'avant-première a eu lieu en avril
2024. Donc la production, le financement, vous l'avez obtenu par quelques voies quand même. Il y avait quand même un minimum de moyens pour pouvoir assurer le tournage dans des conditions professionnelles.
Oui, nous, c'est comme ça qu'on travaille, on est sur des subventions de projet. Donc on va monter un dossier, et voilà, il y a aussi un peu de nos fonds propres, évidemment. Parce qu'il y a aussi beaucoup de montage, tout ça. Enfin, voilà, c'est un peu des deux.
Alors ça, est-ce qu'on peut le considérer comme étant, je ne dis pas l'exemple absolu ou définitif, quand même comme caractéristique, je dirais, votre manière de penser votre travail et de le mettre en œuvre, le sujet, la population concernée, le tournage, le contenu, j'imagine, oui.
En fait, oui, parce que alors il y a deux choses dans les travaux qu'on choisit de faire. C'est soit des travaux qui sont en lien avec notre écosystème, soit on vient nous chercher pour nous dire de travailler sur des sujets, parce que les personnes maintenant commencent un peu à savoir comment on travaille ici à Montpellier. Et donc ça nous arrive aussi d'être parfois contactés pour faire des projets.
D'accord.
On y reviendra sur les autres projets.
Sur commande ou sur sollicitation.
Voilà, et alors la caractéristique première, c'est quand même l'immersion. Ce documentaire, on a passé une immersion de près de 2 ans à la maison d'arrêt de Nîmes.
Ah oui.
Voilà.
Donc c'est pas un coup, je viens 3 fois, bim boum, là
tout.
Je fais.
Et ce qui était bien, c'est qu'on était identifié déjà par les détenus avant les caméras en tant qu'intervenant culturel et aussi par l'administration pénitentiaire.
Et donc vous avez pu travailler dans des conditions bonnes, en tout cas correctes. Hein.
Très bonnes et qui correspondaient le plus possible à la réalité, du quotidien. Quotidien des détenus, quoi. Nous, quand on arrive à faire oublier la caméra, on peut dire qu'on a réussi le travail. Et à Nîmes, on a pu le faire parce qu'on était en confiance non seulement avec les personnes détenues, mais aussi l'administration.
Donc, pas perçus comme des gens qui étaient là, comme des observateurs froids ou comme, je dirais, des gens qui étaient dans une logique d'intrusion.
Exactement.
Dans la vie quotidienne de la maison d'arrêt.
C'est exactement ça.
D'accord. Très bien. Alors j'en ai trouvé d'autres, on va en dire un mot et puis on développera un autre de vos productions. Donc, l'ENRU en chantier, ENRU ça s'écrit E-N-R-U plus loin en chantier. Alors, j'explique parce qu'il y a un jeu de mots pour les non-spécialistes des questions de logement ou d'aménagement urbain. Il y a une structure nationale, un satellite de l'État, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Ça se dit ENRU et donc l'ENRU en chantier. Donc, ça se passait très loin d'ici, du côté de Dunkerque, dans une ville voisine qui s'appelle Saint-Paul-sur-Mer. Là aussi, pareil, on est venu vous faire coucou, là, ou qu'est-ce qui s'est passé?
Exactement, et ben, ça permet de parler un peu de ça, en effet. Donc là, pour le coup, nous, on est associé à un laboratoire de recherche de sciences humaines de Paris 8. Et donc c'est un peu dans ce cadre-là.
Qui travaille sur ces questions de... Quoi, de
en fait,
urbaine,
on va dire
de
oui.
Problématique,
et d'initiative de la part des habitants. Là, en l'occurrence, c'était un élu de la mairie de Dunkerque qui s'était rendu à Saint-Paul-sur-Mer. Et à la base, il était élu à la culture. Et en fait, il s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup d'habitants qui se plaignaient de ne pas avoir été sollicités dans ce projet de l'ENRU, ANRU. Et donc, les habitants se sont mis un peu en collectif pour créer donc, des bancs. Ils ont associé à ce projet des architectes, des chercheurs aussi, et notamment donc, des chercheurs qui nous connaissaient aussi. Et donc, c'est Pascal Nicolas Lestrade, en l'occurrence, qui a été à Paul Valéry et qui maintenant est donc à Paris 8, et qui nous a contactés pour nous dire qu'il avait bien envie qu'on restitue cette aventure-là.
Voilà, vous avez contribué à la démarche.
Voilà.
Donc il y avait le travail des chercheurs, des observateurs, les habitants, les associations de la ville, je suppose, et vous pour accompagner cette
exactement.
Démarche.
Exactement. Très bien. Et donc ça nous a permis de voyager, de découvrir un peu le Nord, qui est une très belle terre d'accueil. Et de...
Je ne peux pas dire le contraire, j'ai fait mes études à Lille, c'est des meilleurs moments de ma vie.
Et c'est un des avantages de notre travail, c'est que ça nous fait voyager.
Alors on va quitter Dunkerque pour Marseille, parce que vous avez fait une vidéo qui s'appelle Marseille 73, mémoire vive au pluriel. Alors de quoi s'agissait-il?
Alors là, pareil, donc en fait, on avait eu l'occasion de s'entretenir avec Dominique Manocci, qui est romancière, mais historienne de formation, qui a sorti Marseille 73. Donc c'est un roman qui s'intéresse aux différents assassinats dans les années en 73 à Marseille.
Ça, on l'a un peu oublié, mais il y a une période d'assassinats, de crimes racistes à répétition, mais un peu dans plusieurs villes en France. Dans une période très dure, dont on a, d'ailleurs, qui ne s'est pas renouvelée avec cette violence. Il y a d'autres formes de violence maintenant, bien sûr. Mais là, c'était une série de crimes racistes. Et dans le film, s'appuie là-dessus sur des témoignages relatifs à cette période.
Alors en fait, elle, à la base, elle ne voulait pas travailler sur cette thématique-là. Mais en fait, en feuilletant, comme c'est une historienne de formation, elle fait un travail assez rigoureux et elle se sert de la fiction pour parler de faits réels. Et elle s'est rendue compte en feuilletant la presse de l'époque que dans la rubrique des faits divers, il y avait énormément de meurtres et que c'était souvent fini en non-lieu où ça disait suicide dans le vieux port d'Algériens. Et donc elle a documenté tous ces meurtres. Et en fait, il s'avère que sur un de ces meurtres, dans la vraie vie, donc dans la réalité, on a trouvé le coupable. C'est le seul sur la vingtaine d'assassinats. Et donc, elle n'avait pas réussi à avoir la famille. Elle avait changé les noms dans son roman. Et en fait, la famille s'est reconnue. À un moment, elle est passée sur Arte et la famille s'est reconnue.
La famille s'est reconnue. Il a pris contact avec elle.
Avec la romancière, exactement.
Il y a une démarche spontanée de la famille qui souhaitait prendre la parole.
Et de là, Dominique Manocci, qu'on avait déjà rencontré pour faire plusieurs entretiens, une série de podcasts, nous a contactés, comme le feeling était assez bien passé, pour nous dire ce serait intéressant qu'on puisse filmer cette rencontre entre elle, la romancière, la famille et revenir sur ces événements. Qui étaient difficiles, mais qui ont aussi servi à la famille de pouvoir en parler. Et, ça a été un très beau projet.
Le film a été diffusé dans le quartier ou a été...
Exactement, il a été diffusé au Gyptis, au cinéma Le Gyptis de Marseille, qui est le cinéma associé à la Friche de la Belle de Mai.
Ouais.
Et dans beaucoup de lieux, notamment sur Montpellier, dans des petites salles. Et donc en fait, on a fini par le diffuser sur Internet, celui-là. Donc voilà.
Un mot là, de où est-ce qu'on peut trouver vos films. Alors, on en vient aussi à quelque chose de plus récent, c'est comme ça que j'ai découvert l'existence d'une urbaine. Donc vous avez fait un film qui s'appelle La mer en face, la mer, hein. Pas la mer, eux. Et elle s'appuie sur le centre de soins Frantz Fanon, du nom du psychiatre et figure de la lutte anticoloniale. Alors aussi pareil, qu'est-ce que c'est cette structure d'abord, ce centre de soins, et quelle a été votre contribution à la démarche, aux activités du centre Frantz Fanon?
Alors le centre Frantz Fanon, c'est un centre de soins à destination des personnes en situation d'exil, donc qui soignent des personnes en situation d'exil. Et en fait, il s'avère que la médecin Aurélie Méhenny fait de la plongée. Et en fait, elle s'était intéressée au fait que la plongée sous-marine permet de régler, de soigner, permet de s'inscrire dans un processus exactement de stress post-traumatique, pas seulement lié à l'eau. Donc c'est vraiment toutes sortes de stress post-traumatique. C'est
la plongée. Y compris les traumatismes liés à l'immigration.
Toutes sortes de traumatismes. Voilà. Les premières fois que ça a été testé, c'était sur les victimes d'attentats de Nice.
Ouais.
Mais oui, ça soigne. En fait, elle travaille avec des publics qui ont subi énormément de violences, que ce soit sur leur terre ou au moment de la traversée, même pour certains. Et donc, la plongée s'inscrit dans ce parcours de soins pour soigner des stress post-traumatiques. Et ce centre qui est aussi géré un peu par la CIMAD. Ils avaient cette médecin, c'était la deuxième année qu'ils mettaient en place ce projet, et elle avait pour volonté qu'on vienne filmer cette initiative. Donc pour nous, ça nous a beaucoup formés, notamment sur le fait qu'il a fallu filmer des femmes. Nous, on est des hommes, c'était beaucoup des femmes, donc avec aussi qui peuvent avoir un rapport au corps abîmé. La caméra, c'est aussi quelque chose qui peut blesser. Beaucoup de publics qui ont été abîmés par la caméra, et c'est là où ça s'inscrit dans notre démarche habituelle, c'est que donc il y a eu aussi beaucoup de temps
d'attention aux personnes.
Exactement. Et il a fallu beaucoup expliquer surtout ce qu'on allait faire avec ce documentaire, la façon dont on allait les filmer, ce qu'on allait raconter. Et voilà, c'est tous ces temps hors caméra aussi qui permettent de pouvoir ensuite se faire un peu oublier au moment où on filme la caméra. C'est une belle aventure qui se continue parce que ce documentaire...
Alors oui, ce documentaire, il a été utilisé, j'imagine, dans le cadre du centre de soins. Exactement. Et au-delà.
Exactement. À la fois, ça a une portée dans le centre Frans Fanon qui peut donc s'en servir pour raconter un peu ce qu'ils font. On s'en sert aussi, nous, et toujours avec eux. Donc, à chaque fois qu'on le diffuse dans certains lieux, donc on l'a diffusé au centre de détention de Salon de Provence. On l'a diffusé aussi aux rencontres cinématographiques de Salon, au festival. On l'a diffusé à Utopia aussi, à Montpellier, au cinéma Utopia. Et donc, à chaque fois, c'est aussi des endroits qui permettent aux personnes, donc, que ce soit Aurélie, mais aussi, par exemple, les personnes qui ont participé à ce projet plongé, les patientes, de venir expliquer tout ce qui s'est passé, tout ce
voilà,
qui s'est passé.
Comment la plongée les a aidés à être
exactement
mieux dans leur peau, quoi, pour le dire platement. Alors, un mot de vos vidéos, comment peut-on les voir là? Dites ça aux auditeurs qui seraient intéressés, ou est-ce que dans quelle plateforme on y accède?
Eh bien, alors, on a des travaux qu'on met sur Internet, et en l'occurrence, celui-là, s'il y en a qui ont des plans pour des diffusions, pour des salles de cinéma, des contacts, ouais,
on y va. Il s'appelle Divergence et on me transmettra.
Mais voilà, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se sert de notre réseau, qu'on continue au fil des années et des diffusions d'élargir. On essaye de le diffuser le plus possible.
Voilà. Il y en a certains qui sont accessibles sur Vimeo et sur YouTube.
Sur Vimeo, sur YouTube. Et puis alors là, voilà, parfois aussi, c'est sur des sujets un peu plus légers, un peu plus, ou en tout cas, un peu plus courts aussi. Ça va être des choses, je vous disais qu'il y avait aussi une partie d'initiative de notre part. Par exemple, on est allé filmer Nilton, un ami à nous qui s'occupe d'un bar associatif qui s'appelle le Tropical Club, en plein centre-ville. Et ça fait une vingtaine d'années. Oui, alors là, maintenant, il a déménagé, mais il est en bas de la rue de l'Aiguillerie. Mais il a été pendant longtemps dans le centre-ville de Montpellier. Et donc, on a voulu un peu le filmer.
Le
jour de la fête de la musique, en fait. Non, puis c'était surtout rendre compte aussi de comment lui réussissait.
À faire un travail d'animation, au-delà de vendre des boissons.
Surtout, comment il réussissait à survivre dans ce centre-ville qui était en pleine transformation, dire gentrification. Lui, c'est quelqu'un qui survit au milieu un peu de toutes ces nouvelles enseignes qui se créent.
Oui.
Et donc, ça nous intéressait, son style de vie. Était quand même assez différent.
Ouais, on comprend aussi votre approche. Alors, le temps file, il nous en reste que peu de temps. Un mot sur l'autre grand volet de vos activités, des ateliers socioculturels, notamment dans les établissements pénitentiaires, ateliers d'initiation aux médias, ateliers de création artistique. Un mot là-dessus, sur cette démarche complémentaire. On voit bien le rapport avec les cultures urbaines et avec une autre approche dans le champ culturel. Alors, quelles sont vos activités plus précisément et dans quelles... Voilà comment ça se passe.
Alors oui, à côté de la réalisation de documentaires, on a tout un On a beaucoup d'ateliers, on organise beaucoup d'ateliers auprès de différents publics, que ce soit des publics de collégiens, de lycéens, à la faculté. On fait aussi des formations, notamment à l'IRTS, l'Institut Régional du Travail Social, sur la manière dont...
Qui forme les travailleurs sociaux.
Exactement, hein. Sur la manière dont l'outil documentaire peut être un outil de transformation sociale.
Ah,
donc,
ouais.
À partir d'une création médiatique, comment on arrive à faire bouger les lignes. Et donc, on vient parler un peu de tout ça, en détention aussi, sur la manière dont l'outil documentaire peut être un outil de transformation sociale. On aborde beaucoup de sujets relatifs à la vérité. Par exemple, souvent, les personnes nous parlent de vérité. Nous, on préfère parler de réalité, dire qu'il y a plusieurs réalités qui s'entrechoquent. Et on préfère, nous, assumer notre subjectivité. On a tendance à dire que l'objectivité, c'est quelque chose qui est difficilement atteignable.
Oui, déjà, c'est l'honnêteté intellectuelle.
C'est ce qu'on met tout en haut, l'honnêteté intellectuelle. Ça me fait très plaisir que vous ayez utilisé ce terme, ouais. Parce que c'est vraiment celui qu'on met tout en haut de notre démarche. Et donc, voilà, c'est de tout ça qu'on vient parler auprès de ces publics-là.
Alors, une petite question liée à l'actualité, donc... Victor van den Vandenberg, vous n'êtes pas un expert des questions de détention, mais le monde des prisons, vous l'avez dit, ne vous est pas étranger. Que pensez-vous des attaques récentes contre les bâtiments de plusieurs prisons et contre les voitures, les domiciles de membres de personnel pénitentiaire ? Petite explication personnelle, même si vous n'avez pas la casquette du super expert international en la matière.
Ouais, non.
Comment vous... Voilà, parce que vous connaissez mieux le monde carcéral que moi-même et que la plupart de nos auditeurs.
Oui, alors, je ne suis pas trop les actualités, mais ce que je peux dire, c'est que ce dont nous, on a été témoins, c'est qu'en prison... Donc, y a une surpopulation carcérale un peu partout. Oui.
À Nîmes, c'est un des...
À chaque fois, en termes de pourcentage.
Sur-effectifs les plus dramatiques.
Et on s'est rendu compte que cette surpopulation joue sur les tensions qu'ils peuvent avoir entre les surveillants et les personnes détenues. Souvent, il y a aussi un manque de personnel qui est un manque de moyens, exactement. Donc, c'est aussi ce qui joue.
Les syndicats de personnel détentionnel l'ont dit ces derniers jours. Là, oui.
Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer aussi le fait qu'en ce moment, nous, on se rend compte aussi que la place de la culture en détention, prend de moins en moins de place. Et je pense
le ministre de la Justice a fait des déclarations extrêmement vigoureuses là-dessus en disant que je caricature à peine que tout ça ne servait pas à grand-chose et en tout cas que ce n'était pas une priorité. En gros,
après,
hein.
je vais pas me fâcher contre lui. Mais... mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que je pense que ça ne va pas aider. Et ça va pas, c'est pas ça qui va permettre d'apaiser les tensions. Ça, c'est ce que je peux dire depuis mon humble rôle d'intervenant socioculturel en détention.
Très bien. Alors, dernière question. Bon, on avait un peu parlé quand on a échangé pour que ça roule bien. Je pose souvent cette question, ça permet de donner un petit aperçu, là. Est-ce que dans votre parcours, dans votre manière de travailler, dans la manière dont vous essayez de conjuguer vos tactiques professionnelles et les valeurs qui vous portent ou les convictions qui vous animent, quelle est l'idée reçue, peut-être à propos des prisons ou d'autres choses que vous rencontrez, qui vous exaspèrent et que vous allez pouvoir flinguer au passage dans vos derniers mots au micro de Divergence ?
Alors, exaspéré, peut-être pas. j'essaye quand même d'apaiser mon cœur sur pas mal de sujets. Mais en tout cas, non, moi, ça me fait penser, votre question me fait penser à nous, ce qu'on peut renvoyer parfois en tant que documentariste,
oui.
Quand on se présente en tant
que
journaliste.
L'idée reçue, c'est quelqu'un qui arrive avec une caméra, etc.
Exactement,
oui.
Exactement. Il y a toujours un peu cette on est toujours obligé de venir et de il y a l'image qu'on renvoie quand on dit documentariste, journaliste, souvent on peut nous associer directement aux grands médias donc après dans notre manière de travailler et parce qu'on prend vraiment le temps d'expliquer notre démarche
vous l'avez dit
compte, exactement,
c'est-à-dire cette ça prend du temps, ça demande du soin,
exactement,
de l'attention.
Et puis, mais même ça vient même sur des endroits à partir de comment on va s'habiller, par exemple. Quand on arrive, si on ne correspond pas forcément à l'idée, à l'image que peut avoir un journaliste, des gens vont peut-être se dire on va peut-être pas être pris au sérieux tout de suite.
Des petites choses comme ça. De représentation au sens premier du mot.
On est dedans. Ouais. Donc voilà.
Mais vous avez été convaincant pour nous raconter ça. Je vous remercie, Victor Van Dier. À bientôt.
Merci beaucoup.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché ?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Renne, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpellier-Renne, pur jus.
Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.